Iowa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du lundi 6 septembre 2016. Morgane Guiriac et Eric Manilakis en votre compagnie. Au sommaire ce soir.
Les tensions post-électorales au Gabon. L'Union africaine se propose d'envoyer une délégation de haut niveau à Libreville.
Burkina Faso, tous les anciens ministres de Compaoré convoqués à la gendarmerie.
Attentat à Kaboul, la capitale afghane. 3 attaques successives ont fait des dizaines de morts.
Et ne manquez pas notre chronique quotidienne sur la présidentielle américaine.
Et bien sûr, l'économie et les sports, juste après le journal.
Enquête sur l'insurrection d'octobre 2014 au Burkina Faso. Des ministres du président déchu Blaise Compaoré ont été entendus ce mardi par la gendarmerie. Le point sur place avec Zoumana Wonogo.
Depuis un moment, des voix s'élevaient de plus en plus au Faso pour dénoncer le fait que la justice traînait trop les pas dans les enquêtes sur l'insurrection. Eh bien, depuis ce matin, les lignes ont commencé à bouger avec la convocation à la gendarmerie nationale des ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré. Ainsi ont été auditionnés Baba Hama, ministre de la Culture, Alain-Édouard Traoré, porte-parole du gouvernement, Jean Kouldiati, du développement de l'économie numérique, Diem Djoda Diko, de l'éducation nationale, Mahama Zungarana de l'agriculture, Toussaint Abel Koulibaly de l'aménagement du territoire, Bounessan Arsène Yé, le ministre des réformes politiques. Ces auditions font suite à la mise en accusation par le Parlement de la transition du dernier gouvernement de Blaise Compaoré pour coups et blessures volontaires, complicité de coups et blessures, assassinat et complicité d'assassinat. Car c'est ce gouvernement qui avait adopté le 21 octobre 2014 le projet de loi portant modification de la Constitution, ce qui a entraîné l'insurrection populaire les 30 et 31 octobre. Insurrection qui a fait officiellement une trentaine de victimes. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
11 jours après l'élection présidentielle au Gabon, le camp du président sortant Ali Bongo Ondimba et celui de son rival Jean Ping, qui s'est proclamé élu, poursuivent leur bras de fer sur fond d'inquiétude grandissante de la communauté internationale. On fait le point avec John Lyndon.
Le premier ministre français Manuel Valls a souhaité mardi sur la radio RTL un nouveau décompte des voix du scrutin présidentiel à un tour du 27 août dernier. Une position qui rejoint celle de l'opposition gabonaise, de plusieurs autres diplomates étrangers et des diverses institutions internationales. Le pouvoir, lui, refuse tout recomptage en arguant que la loi électorale ne le prévoit pas. L'Union africaine s'est dite prête à envoyer au Gabon une délégation de haut niveau composée de chefs d'État africains pour trouver une solution à la crise. Sur le terrain, Jean Ping, qui s'est proclamé président élu, a lancé un appel virulent à une grève générale pour bloquer l'économie du pays et faire tomber le tyran. Hier, un Ivoirien accusé d'avoir manipulé les résultats de l'élection a été arrêté au QG de Jean Ping. Alors que dans le même temps, Séraphin Moutonga, poids lourd du gouvernement et ministre de la Justice, démissionnait. La France s'est également inquiétée d'être sans nouvelles de plusieurs de ses ressortissants binationaux au Gabon. Aucun trouble majeur n'était signalé mardi à la mi-journée dans la capitale Libreville.
En RDC, les travaux du dialogue politique se poursuivent à Kinshasa. Aujourd'hui, le président de la commission électorale, Corneille Nangaa, a confirmé que le travail de la constitution du fichier électoral prendra 468 jours, soit 16 mois et 1 jour. Pour sa part, la conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, exige le respect de la Constitution comme condition de la poursuite de sa participation au dialogue. On écoute l'abbé Léonard Santédi, secrétaire général de la CENCO.
Maintenant que le dialogue a commencé, la CENCO ne s'arrête pas, elle continue pour accompagner d'abord dans la prière, mais accompagner aussi par la sollicitude en rencontrant les acteurs qui sont au pouvoir, en rencontrant l'opposition, en rencontrant la communauté internationale pour qu'on donne plus de chances à ce dialogue qui a commencé mais qui doit se poursuivre en tenant compte aussi des exigences des uns des autres, notamment en continuant avec des mesures de décrispation, la libération d'autres prisonniers, l'ouverture d'autres médias. Aujourd'hui, la CENCO rappelle réelle. Ce qui est fondamental aussi, que ce dialogue doit se faire dans le respect du cadre constitutionnel. Et les évêques attirent l'attention surtout quand ils parlent de ce cadre constitutionnel, attirent l'attention surtout en ce qui concerne les articles verrouillés. Vous connaissez les articles verrouillés concernant notamment la durée du mandat présidentiel, concernant l'alternative démocratique.
L'abbé Léonard Saint-Eddy, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, au micro de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire.
Au Nigeria, 4 militaires sont morts noyés au cours d'une opération contre des rebelles dans le delta du Niger. D'après l'armée, leur bateau a chaviré hier pour des raisons inconnues dans la région de Brasse. Il faut dire que les autorités ont lancé l'opération Sourire de crocodile contre les groupes armés qui multiplient les attaques contre des installations d'hydrocarbures depuis le début de l'année.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et dans le reste du monde, au moins 41 personnes sont mortes et 110 autres blessées dans 3 attentats successifs qui ont secoué Kaboul, la capitale afghane, depuis hier. L'un des assauts a eu comme cible des locaux d'une ONG internationale, CARE International. Nani Talani a les détails.
Les deux premières déflagrations ont eu lieu à quelques minutes d'intervalle près du ministère de la Défense. Elles visaient vraisemblablement à faire un maximum de victimes parmi les fonctionnaires qui quittaient alors le ministère pour rentrer chez eux. Selon les autorités, la première bombe avait été actionnée à distance et la deuxième par un kamikaze. Un porte-parole taliban, Zabihullah Mujahid, a indiqué sur Twitter que la première bombe avait visé le ministère de la Défense et la seconde, la police. La troisième attaque, ciblant les locaux de l'association humanitaire CARE International, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, a débuté par l'explosion d'une voiture piégée, suivie de tirs éparses, et s'est soldée par 6 blessés et la mort des 3 assaillants lors de l'intervention de commandos afghans ce matin. Elle n'a pas été revendiquée. 42 personnes, dont 10 étrangers, ont pu être sauvées. CARE International a déclaré que son personnel était sain et sauf, mais que ses locaux avaient été endommagés. Pour Amnesty International, cet attentat visait délibérément des civils et constitue un crime de guerre. Plusieurs officiers sont morts lors de ces attaques qui interviennent alors que les talibans renforcent leur offensive contre le gouvernement pro-occidental.
Parmi les morts de lundi figurent plusieurs responsables. En Égypte, Al-Azhar, la plus haute institution de l'islam sunnite, a dénoncé ces attentats de Kaboul, estimant qu'ils sont contraires aux enseignements tolérants de l'islam.
Le président philippin Rodrigo Duterte a exprimé ses regrets ce mardi après le scandale suscité par le fait qu'il avait insulté la veille le président américain Barack Obama. Nathalie Barge.
Il regrette que ses remarques devant la presse aient causé une telle controverse, selon un communiqué du gouvernement philippin. Les deux hommes d'État avaient prévu de se rencontrer dans la journée, en marge d'un sommet des pays d'Asie du Sud-Est au Laos. Le président Duterte a expliqué que des commentaires de presse selon lesquels le président Obama lui ferait la morale sur les exécutions extrajudiciaires l'avaient conduit à ce commentaire virulent, tente de justifier le communiqué des autorités philippines. Barack Obama a annulé la rencontre prévue ce mardi avec Duterte à Vientiane, la capitale laotienne, suite à ce scandale. Nos deux délégations sont tombées d'accord sur le fait qu'à la lumière des problèmes sur lesquels il nous faut encore travailler, la réunion bilatérale entre nos deux nations est reportée, assure de son côté Manille.
Nathalie Barge. Deux soldats turcs ont été tués à 5 et 5 ont été blessés aujourd'hui dans une attaque à la roquette menée par le groupe djihadiste État islamique dans le nord de la Syrie, a rapporté une télévision turque citant un communiqué de l'armée.
Le groupe État islamique, chassé de la frontière syro-turque, a subi d'importants revers militaires. Mais l'organisation djihadiste contrôle encore de larges pans de territoire en Syrie et en Irak, où elle mène des attentats sanglants. L'État islamique a aussi perdu plusieurs chefs, dont l'un de ses commandants, Omar al-Shishani, et le stratège et porte-parole Abu Mohamed al-Adnani.
Le Conseil de sécurité s'est réuni aujourd'hui à huis clos pour étudier une riposte éventuelle au dernier tir nord-coréen de missiles balistiques. Au même moment, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a appelé au renforcement de son arsenal nucléaire.
La justice britannique a condamné aujourd'hui à 5 ans et demi de prison le prédicateur radical Anjem Choudhary dans le collimateur de la police depuis 2 décennies. Il représente la grande figure du Londonistan, le mouvement radical islamiste de Londres.
Et le grand moufti d'Arabie Saoudite a affirmé que les Iraniens ne sont pas des musulmans. C'est dans une déclaration à un quotidien saoudien publié aujourd'hui, au lendemain d'une diatribe du numéro 1 iranien Al-Khomeini contre les dirigeants saoudiens au sujet du pèlerinage.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs.
Plus de 1000 entreprises françaises et africaines participeront les 22 et 23 septembre aux rencontres Africa 2016 à Paris, un événement destiné à booster les relations avec l'Afrique. En 2015, plus de 40 000 entreprises françaises ont exporté vers des pays africains, soit un tiers des entreprises exportatrices. Et bien qu'ayant perdu des parts de marché sur le continent, les ventes françaises vers l'Afrique ont augmenté de 4%. L'économie sud-africaine, la première du continent, a évité d'entrer en récession en enregistrant au deuxième trimestre de 2016 un taux de croissance de 3,3% après une baisse de 1,2% au premier trimestre selon les chiffres officiels publié ce mardi. Il s'agit de la meilleure croissance trimestrielle enregistrée par le pays depuis le quatrième trimestre 2014. 580 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'appui financier que la Chine vient d'apporter au chanteur Akon. Ces fonds lui permettront, à travers son initiative Akon Lighting Africa, de fournir de la lumière à près de 16 millions de foyers en Afrique. Akon a déboursé à titre personnel plus de 100 millions de francs CFA pour démarrer ce projet.
La Minute Éco, merci John Lindon.
Votre page sportive aujourd'hui avec Tatiana Mosso. Tatiana, bonsoir.
Bonsoir Eric.
On commence par l'athlétisme. Les Africains sont pour un durcissement de la réglementation concernant les changements de nationalité, n'est-ce pas ?
Effectivement, le président de la Confédération africaine d'athlétisme a plaidé lundi à Dakar pour un durcissement de la législation, donc qui concerne le changement de nationalité, qui se multiplie dans ce sport, notamment au profit des monarchies du Golfe et de la Turquie. Il a rappelé les changements de nationalité au profit des pays européens, mais aussi du Qatar et de Bahreïn. L'illustration la plus flagrante, celle de l'athlète bahreïni d'origine kényane Ruth Jebet, la récente championne olympique du 3000 mètres steeple et auteur du record du monde le 27 août à Paris.
Et maintenant, direction l'US Open de New York avec la 10e journée du tournoi.
Effectivement, on attend les quarts de finale dames et messieurs, mais il faut surtout retenir ce qui sera l'image du jour et de 308 pour Serena Williams, la championne américaine, avec sa victoire contre la joueuse du Kazakhstan Yaroslava Shedova. C'était donc à l'US Open. L'américaine a dépassé le Suisse Roger Federer au nombre de matchs gagnés dans les tournois du Grand Chelem. Et aujourd'hui, on attend de grosses têtes d'affiche.
En football, Tatiana, le mercato a encore battu des records en termes de dépenses. Parmi les transferts phares de l'été, certains concernent des joueurs africains. Le bilan des principaux mouvements.
Alors en Angleterre, l'Algérien Islam Slimani a quitté le Sporting Portugal pour rejoindre Leicester. Même scénario pour le Nigérian Ahmed Moussa, l'ancien sociétaire du CSK Moscou. Un des premiers gros coups du mercato était déjà à mettre à l'actif des Foxes. Manchester United s'est offert l'Ivoirien Eric Bailly de Villarreal. L'impressionnant Sénégalais Sadio Mané, lui, a quitté Southampton pour Liverpool. Et enfin, Yannick Bolasie de la RDC a quitté Crystal Palace pour Everton.
En Allemagne,
c'est le Guinéen Naby Keïta qui est passé chez les Red Bull Salzburg au RB Leipzig dans le sillage de Sadio Mané. Et puis...
Oui, l'Espagne.
En Espagne, oui, la star ghanéenne Kevin Prince Boateng, lui, a quitté le Milan AC.
Merci Tatiana.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez toujours VOA Afrique, Morgane Guiriek et Eric Manirakis en votre compagnie. Place au dossier du jour.
Premier escale, la République démocratique du Congo. Nous partons à Beni. Après 2 mois de combat, l'armée affirme avoir repris plusieurs villages et axes occupés par les rebelles islamistes ougandais des forces démocratiques alliées, les ADF. La situation demeure toutefois volatile. Il faut dire que depuis octobre 2014, l'ONU fait état de plus de 600 civils tués. La population, quant à elle, espère vite retourner au champ de cacao. Shandy Kazereka a suivi les forces congolaises dans le fin fond de la forêt pour rencontrer ces villageois qui résistent aux menaces.
Pour atteindre ces positions et villages, nous quittons la nationale numéro 4 pour une route secondaire qui mène vers la frontière ougando-congolaise. L'officier Nyanyi Kasongo dirige l'une des unités spéciales qui combattent les ADF depuis octobre 2014, fait le guide.
Ça ne pourrait pas s'expliquer d'ici la nationale numéro 4 et à 2 km se trouve l'ennemi. Voilà, c'est là où il y a eu le début des opérations contre les ADF Nalu, c'est-à-dire l'axe Mbau-Kamango. C'est le début du triangle de la mort.
Dans cette brousse, certaines positions jadis occupées par les ADF, aujourd'hui entre les mains des FRDC, l'ambiance est au rendez-vous. Les cultes y sont improvisés, question de maintenir la morale des troupes au front. Une heure après, nous voici dans la localité Totolito, au PK-45. Il y a une année, cette localité était le centre des opérations de cette rébellion d'islamistes et des ADF. Ici, la vie a repris son cours normal à plus de 50%, mais les villages manquent de tout, comme le dit ici le chef de localité, Paulou Kouchouma.
Nous sommes maintenant une centaine d'habitants. Dans tous ces villages, nous n'avons maintenant aucune installation sanitaire, moins encore une école. Tout a été détruit par les ADF. Nous n'avons pas encore l'accès total à nos champs. Nous y allons sous la vigilance de nos militaires.
Sur cet axe, les trafics a repris. Les jeunes taximen se retrouvent et gagnent facilement leur vie après les contrôles de la zone par les FRDC.
Depuis 2007, j'ai fait des trafics sur cet axe. Auparavant, quand les rebelles contrôlaient les milieux, c'était difficile pour moi de réaliser même ces $20 le mois.
Avant de quitter les villages, on nous fait visiter la mosquée de 10 mètres sur 4 construite au milieu des feuilles de cacao où les villageois étaient obligés de faire la prière. Pour accompagner et inciter la population à revenir dans les villages, les éléments FRDC qui contrôlent la zone construisent une école qui va accueillir une centaine d'écoliers pour cette rentrée scolaire.
Nous contribuons dans le cadre de l'entretien des routes. Il y a aussi une école qui est appuyée aussi par rapport à nos moyens de bord.
Yvon Ramazani, du cabinet de la présidence, envoyé dans la région pour évaluer la situation, pense que l'espoir est permis pour cette population entourée d'une forêt, des bois rouges et du cacao.
Nous sommes à 45 km de Beni. D'abord, il y a un problème de communication et il faut pacifier les alentours. Et pour que l'économie puisse se reprendre, il fallait qu'on soit ici, qu'on voit ce qui se passe et qu'on dise en face du monde que réellement notre armée a guéri et notre armée travaille.
Les 13 août dernier, plus de 50 civils ont été massacrés dans un quartier proche de Beni. L'armée et la police congolaise viennent de renforcer leurs troupes dans la région pour rassurer la population. Et Charlie Kasereka, des retours de Beni pour VOA Afrique.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Goma sur 96.2 FM.
Cap sur le Tchad, le HCR et ses partenaires se mobilisent pour la prise en charge des réfugiés soudanais pour favoriser leur intégration et renforcer leur autonomie vis-à-vis de l'assistance humanitaire locale. Des projets agricoles et des formations sont notamment financés. La correspondance d'André Kodmajingar.
Plus de 130 000 réfugiés soudanais installés dans 3 sous-préfectures de la région du Wadaï, à savoir Farshana, Hadjaradit et Tchokoyan depuis 2003, sont sous la protection de la sous-délégation du HCR de Farshana. Avec la réduction de l'assistance humanitaire, le HCR et ses partenaires changent de stratégie. Des camps de Tchouloulou à Souarouaga, en passant par Breding et Tréguin, la tendance à l'autonomisation des réfugiés est perceptible à travers le financement de champs communautaires et les activités génératrices de revenus. Des centres de formation professionnelle ont été créés dans ces différents camps. Et pour faciliter la cohabitation pacifique, les réfugiés sont recrutés dans ces centres de formation à hauteur de 60% et 40% des autochtones. Dame Saboura, réfugiée soudanaise, se dit fière d'apprendre la couture.
Moi, je voudrais apprendre de la couture pour que demain, j'ouvre mon atelier et faire des business avec. Au début, c'était difficile, mais après, maintenant, ça va mieux.
Une jeune dame autochtone hôtelière de formation, Nerambay Chantal, en service en Djamena, a abandonné son travail pour se retrouver dans le centre de formation de Tchololo. Mariée, puis divorcée avec 3 enfants sous les bras, elle a parcouru plus de 1000 km pour suivre la formation en électricité bâtiment.
J'aime ce métier, c'est pas difficile. Avant, je travaillais à l'hôtel. Je m'intéresse beaucoup, c'est pour cela que j'ai abandonné l'hôtel pour venir ici.
Fatima Djuma, réfugiée soudanaise, âgée de 28 ans, celle-là vit au camp de Tréguing depuis 12 ans avec ses 4 enfants. Elle opte pour la formation, sa bonification et teinture. Avec sourire aux lèvres, Dame Fatima nous parle de ce qu'elle entend faire après sa formation.
Pour les savons de linge, on mesure d'abord la quantité d'eau, on les mélange avec la soude, on met l'huile, on met aussi le sel, l'homo, et on va tourner jusqu'à ce que ça solidifie. Après cette étape, nous allons les couler dans une moule spécifique et les laisser dans un endroit frais et sec pendant au moins 12 heures. On va les mettre dans un plateau découpé en petits morceaux. Quand je quitte ce centre après ma formation de 6 mois, je vais me retrouver avec mes autres soeurs réfugiées autochtones en créant une petite entreprise et puis en demandant de financement auprès des partenaires.
Ces apprenantes utilisent des produits chimiques pour la fabrication du savon. Linansou Wanaga, chef de département sabonification et teinture, parle des mesures de sécurité.
Elle se protège avec le masque gaz, des fois les paires de lunettes que vous voyez pour que le produit ne tombe pas au niveau de l'œil. En cas où il y a de brûlure, on a également le vinaigre pour neutraliser également le produit.
André Kodma Djingar, de retour de l'Est du Tchad pour VOA Afrique.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Et près de 7 ans après la défaite du mouvement des Nigériens pour la justice, constitué de Touareg et de Toubou, le Niger va-t-il connaître une nouvelle rébellion dans son septentrion ? Adam Tchaké, un ex-lieutenant du célèbre Barka Ouardougou, qui a dirigé un soulèvement Toubou dans les années 90, semble avoir l'ambition. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, ce septuagénaire annonce la réactivation de son mouvement pour la justice et la réhabilitation du Niger fondé en 2008. Notre correspondant au Niger, Abdulrazak Idrissa, a visionné pour nous la vidéo.
Dans la vidéo qui dure 2 minutes et demie, celui qui se présente comme le président par intérim annonce que le moment venu, ils vont attaquer le Niger. Le mouvement se nommerait « Mouvement pour la justice et la réhabilitation du Niger ». 4 jeunes armés enturbanés et des véhicules derrière lui, il dit avoir 2 points de revendication. Des droits au gouvernement du Niger et des droits de la part de la société chinoise qui extrait le pétrole dans l'est du Niger, la CNPC. Adam Tchékémi indique avoir relancé ce mouvement créé en 2008 parce que n'ayant aucune occasion de dialoguer avec les autorités. Ceux qui le connaissent disent qu'il est un proche du défunt Barka Ouardougou, redoutable chef de guerre des rébellions des années 1990 au Niger. Un élément de la communauté Toubou, joint par VOA Afrique, estime qu'il faut prendre au sérieux ces menaces parce que c'est une situation prévisible au vu de ce qui se passe actuellement dans la zone. Pour un autre, il s'agit juste d'un moyen de chantage, notamment à la compagnie chinoise CNPC. Tous les deux localisent sans précision ce monsieur dans les montagnes situées aux frontières entre la Libye, le Tchad et le Niger, zone que partagent les communautés Toubou de ces 3 pays. Le gouvernement nigérien n'a pas encore réagi à cette vidéo. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Présidentielle américaine 2016, la campagne repart de plus belle le lendemain du Labor Day, la fête du travail ici aux États-Unis. Le candidat républicain Donald Trump et la démocrate Hillary Clinton courtisent les militaires. Pendant ce temps, le candidat du parti libertarien, Gary Johnson, continue de déployer des efforts pour peser dans la balance. À mes côtés, pour nous en parler, Timothée Donangmaï.
La question de la sécurité nationale occupe une place importante dans la campagne électorale américaine cette année. Alors, bonne nouvelle sur ce front pour le républicain Donald Trump, qui a publié une lettre ouverte de 88 généraux et amiraux retraités disant le soutenir pour être le prochain chef suprême des armées. Selon eux, Trump a toujours été étroitement associé aux activités des militaires et saura faire face aux menaces émergeant dans le monde contre les États-Unis. Pour ne pas être en reste, la candidate démocrate Hillary Clinton a lancé, elle aussi, ce mardi, un spot télévisé en direction des militaires. Intitulé « Sacrifice », ce spot montre des militaires en train d'écouter certaines des déclarations de Donald Trump les plus controversées, y compris M. Trump affirmant qu'il en sait plus que les généraux sur le groupe État islamique, ou encore le candidat républicain disant du sénateur de l'Arizona et héros de guerre John McCain qu'il n'est pas vraiment un héros dans la mesure où il a été fait prisonnier au Vietnam. « Nos anciens combattants méritent mieux », conclut le spot de la démocrate Hillary Clinton.
Il faut noter, Tim, que Hillary Clinton a déjà aussi bénéficié du soutien de certains militaires. Les dates et les sites des débats présidentiels devant opposer Trump et Clinton sont maintenant connus, tout comme les noms des journalistes devant les animer. Toutefois, le candidat du parti libertarien, Gary Johnson, estime qu'il faut compter avec lui, Timothée.
Eh oui, Eric Johnson, qui figure sur les bulletins de vote dans les 50 États de la Fédération, recueille actuellement environ 10% des intentions de vote, selon un sondage du New York Times publié dimanche. C'est moins que le seuil minimum de 15% fixé par la Commission indépendante des débats présidentiels pour être admis au débat. Toutefois, le candidat libertarien est appuyé par une portion de l'électorat que les deux principaux candidats ont du mal à attirer. Ses partisans sont constitués de 32% de jeunes, alors que ce taux est de 15% chez Mme Clinton et 12% chez Donald Trump. Des chiffres encourageants donc pour Gary Johnson, qui a reçu dimanche l'appui du Richmond Times Dispatch, le principal journal de la Virginie, un des États clés de cette présidentielle. Si la commission des débats présidentiels veut rendre un réel service au pays, elle invitera Gary Johnson sur cette grande scène, souligne un éditorial du quotidien. Une perspective préoccupante pour Hillary Clinton, dans la mesure où Eric, ses jeunes partisans, sont plus susceptibles de voter pour Johnson que ceux de Donald Trump.
Merci Tim.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et c'est la fin de cette édition. Lionel Gaïma a dirigé la mise en onde. Présentation Morgan Guerriec et Eric Manirakiza.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. Merci à nos fans sur Facebook, 1 700 000. On maintient la conversation. Enfin, n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.